Il y a personne qui crie avec moi. Woo! Yes! Gloire à Dieu. Et vous vous rendez compte qu'en ce moment, il y a dans des stades, il y a des gens qui se réunissent. Ils sont impressionnés par des milliers de gens. En ce moment, il y a des millions de gens qui regardent la télévision. Et nous, dans ce lieu-là, on est dans la présence du Dieu que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Ils ont battu un record, ce que j'aime bien le rugby, c'était vendredi soir je crois, le plus grand, ils ont rempli presque 100 000 places pour une finale de top 14 au rugby. On pourrait faire waouh, 100 000 personnes, mais le Dieu que les cieux des cieux ne peuvent contenir, aucun stade ne peut contenir Dieu. Okay, vous vous rendez compte, aucun stade ne peut contenir Dieu. Tous les stades du monde ne peuvent pas contenir Dieu. Et le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Quelle grâce de pouvoir adorer ce Dieu. Il nous regarde et je ne sais pas combien sont exactement les anges, mais il nous regarde aussi. Je pense que ça doit faire beaucoup, beaucoup de monde. Alors ça vaut vraiment la peine. Quand je vois qu'ils se déchaînent, les supporters, ils boivent, ils crient, ils n'ont plus de voix à la fin, ils donnent tout pour supporter leur équipe et ils disent gloire à leur équipe. Il n'y a que les verts qui comptent ou les bleus, blancs, rouges, que sais-je, les bleus. Nous, nous donnons tout ce que nous avons. Bien sûr, ça va au-delà des cris. Hein. On peut aussi adorer Dieu presque sans pousser de cris, mais on doit donner tout ce qu'on a. Amen. La Bible dit que tout ce qui est en moi loue l'Éternel, loue le Seigneur. Amen. Vous allez bien? Yes, gloire à Dieu. Ça fait bon plaisir de vous voir cet après-midi. On va parler ensemble d'un thème que vous aimez peut-être, que vous avez déjà entendu. C'est essayons de voir ensemble quelles sont les caractéristiques d'une église en bonne santé. Et je dirais aussi quelles sont les caractéristiques d'un chrétien en bonne santé. La première chose que j'avais envie de dire, c'est qu'on a chanté Freedom. Et j'aimerais vous dire que quand on est chrétien, on est libre. Amen. Libre. Et la plus grande liberté, c'est celle de la liberté vis-à-vis de la condamnation et du jugement. Vous vous rendez compte que nous n'avons plus d'épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Que si vous êtes à Christ, vous pouvez mourir demain, vous êtes avec le Seigneur. Il n'y a plus la crainte du jugement. Ça, c'était extraordinaire. La Bible dit que ceux qui ne sont pas en Christ sont sous la domination de Satan, qui les tient dans la crainte du jugement. Mais nous, tout cela, c'est disparu. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il a tout accompli pour me sauver. Amen. Je suis libre. Alors, regardez ensemble Actes chapitre 2, verset 37. Si vous n'avez pas votre Bible, vous allez voir, ça va s'afficher sur l'écran. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Vous imaginez, c'est il. C'était, on voyait une communauté de gens qui vivaient quelque chose d'extraordinaire. Et l'objectif, mes amis, c'est qu'on vive tous quelque chose d'extraordinaire ensemble. Ça, c'est plus difficile. Je dirais que j'aurais aimé qu'on soit tous ensemble en train de vivre les mêmes choses. Mais vous savez, vous qui êtes dans l'église, parfois il y a des personnes un petit peu en retrait, un petit peu en décalage. Parfois, ils sont blessés, ils sont en retrait. Mais là, il y a quelque chose de particulier dans cette église en bonne santé. Ils sont tous là ensemble et ils vivent tous des choses extraordinaires. Amen. Et j'aimerais vous dire que c'est la volonté de Dieu que vous viviez tous des choses extraordinaires. Certaines personnes ont une idée de la vie chrétienne en disant « Quelques-uns sont bénis, c'est seulement quelques-uns qui sont zélés. Il y en a quelques-uns qui sont remplis de l'Esprit. » J'aimerais vous dire que Dieu veut qu'on vive tous ensemble quelque chose de merveilleux. Alléluia. Et quand la première chose qu'on voit lorsqu'on veut avoir une église en bonne santé, mes amis, le premier point, c'est qu'il y a là un message complet. Nous devons vraiment faire attention. Qu'est-ce que nous voulons? Juste du monde? Moi, je suis content quand il y a du monde, parce que je me dis, c'est l'occasion de jeter le filet, on est d'accord. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Juste du monde? Juste de l'influence? Juste avoir un public? Nous cherchons plus que ça. S'il y a du monde, tant mieux, on va pouvoir prêcher. Mais même si cette salle était remplie, qu'on soit obligé de faire deux cultes, le défi pour nous, c'est d'avoir un message complet. L'évangile ne peut pas être troqué. L'évangile, c'est tout dans son ensemble. Et même lorsque l'apôtre Paul était dans les églises, il prenait du temps, il prenait soin d'enseigner tout ce qui était utile. Amen. Vous savez, le grand défi, c'est de pouvoir aller dans tous les sujets de la parole de Dieu et d'être enseigné dans tous les compartiments de notre vie chrétienne. Le message est complet, pourquoi? Parce qu'il y a la prédication de la croix. Il parle de Jésus crucifié, mais il parle aussi de Jésus ressuscité. Il parle de Jésus qui est roi et d'un Jésus qui règne et que la mort n'a pu retenir. Il y a un message complet de rédemption. La Bible dit que quand il a prêché la croix, que c'est ce Jésus-Christ que vous avez crucifié, la Bible dit que leurs cœurs ont été touchés. Écoutez-moi bien, je crois qu'on peut toucher les gens en disant « Allez, va de l'avant, je t'encourage, tu es la meilleure, tu es la plus belle, n'est-ce pas, Darol ?» On peut encourager les gens, c'est super, mais qu'est-ce qui va libérer les gens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? C'est la prédication de la croix. Amen. On parlait d'être « freedom », on parlait de liberté. Les chaînes sont tombées parce que Jésus est mort sur la croix, parce qu'il a payé la dette, parce qu'il a pris la condamnation. Parce qu'il a pris ma dette. Alléluia. C'est ce qui va libérer les gens. Ils n'ont pas simplement dit, vous êtes juifs, ça tout va bien, vous êtes déjà dans la meilleure ville, vous allez au temple tous les jours, continuez comme ça et vous serez peut-être sauvés. Non, il a dit, Jésus que vous avez crucifié. Et j'aimerais vous dire que ce Jésus qui a été crucifié, c'est à cause de mes propres péchés à moi. Amen. La deuxième chose qu'on voit ici dans un message complet, il y a un message de repentance. Parce que quand on est touché, véritablement par le Saint-Esprit, c'est pas pour dire « Ah, j'ai senti des choses, j'ai des fourmis dans les pieds, je sens des sensations. » Quand on est touché par le Seigneur, il y a un désir de dire « Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Notre cœur est touché. » Et qu'est-ce que Pierre va dire? « Repentez-vous. » C'est quoi la repentance? C'est deux choses. On reconnaît ses erreurs, on reconnaît qu'on a péché contre Dieu. Mes amis, c'est pas à moi qu'il faut vous confesser. Parce que dans le temps, on allait se confesser au curé, ou certains pensent qu'il faut se confesser au pasteur. Mais c'est pas vrai. Allez, c'est auprès du Seigneur qu'il faut obtenir miséricorde. La repentance. Et une deuxième chose aussi dans le mot repentance, c'est changement de mentalité, changement de conduite, changement d'orientation, changement de façon de penser. Ce que j'aime lorsque quelqu'un se convertit, c'est que sa façon de penser change, sans même parfois qu'on lui dise comment il faut faire. Dernièrement encore, une personne est venue me voir en disant « Je voudrais aller plus loin avec le Seigneur, etc. » Et elle m'a dit, dans sa vie, elle m'a expliqué comment elle a mis les choses en règle dans sa vie sans que quelqu'un lui dise. Elle dit « Je me sentais plus à l'aise avec ça. » Et puis, je me sentais plus à l'aise de faire ça. « Alors, qu'est-ce que tu as fait ?»« Ben, j'ai arrêté. Oh. » Et comme ton entourage, ben, l'entourage n'ont pas tout à fait compris, mais ils ont accepté. Quand le Seigneur rentre dans la vie de quelqu'un, on n'a pas besoin de lui dire « Fais ceci, fais cela. » Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais comment c'est l'évangile? Comment vous faites avec les homosexuels? Comment vous faites avec les gens de mauvaise vie? Comment vous faites avec ceux qui aiment le monde? Mais laissez-les venir au Seigneur Jésus. Quand le Seigneur va rentrer dans leur cœur, leur mentalité et leur façon de vivre va changer. L'Église ne les changera pas. Le pasteur ne les changera pas. Le Seigneur Jésus peut le faire. Et tant qu'on reste à la porte, on ne peut pas connaître ce changement. Moi, si on m'avait dit, si avant de connaître Jésus, on m'avait dit, bah, tu sais, quand tu seras chrétien, tu iras plus, tu sortiras plus. Moi, j'aimais sortir. Hein. J'aimais être avec les potes, faire la fête et la java. Si on m'avait dit ça, je ne serais plus jamais vu chrétien. Si on m'avait dit, tu vois, tu vas passer tous tes samedis à te coucher assez tôt, et puis tous tes dimanches, tu vas aller passer à l'église, et puis tu vas prier tous les jours. J'aurais dit, c'est quoi cette vie chrétienne là? C'est le monastère. Mais quand je suis venu au Seigneur Jésus, il a changé ma mentalité, et là, j'ai eu envie de plein de choses que j'aurais jamais pensé avant. Et mes parents, mes amis m'ont dit, mais quoi, t'es devenu curé ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus qui m'a changé. Amen. La troisième chose, c'est le baptême d'eau. Vous avez vu? Tout de suite, chacun de vous soit baptisé. Littéralement, on devrait plutôt le traduire, non pas pour avoir le pardon des péchés, mais à cause du pardon de vos péchés. Le baptême par immersion. Après, il parle du baptême du Saint-Esprit. Et vous recevrez quoi? Ce que vous venez d'entendre, parce que au bruit que faisaient les gens de parler en langue, de parler des langues extraordinaires, de les entendre glorifier Dieu, ils sont venus, ils disent, qu'est-ce que c'est que ça? Et Pierre commence à parler de, oui, dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit. Et il leur dit, vous recevrez aussi ce don-là. Amen. Ensuite, il parle de sanctification. Il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Alors me direz-vous, frère, Parce que dans la génération auquel nous vivons, est-ce que c'est une génération perverse? J'aimerais vous dire, oui, nous en faisions partie. Mais en même temps, Dieu aime le pécheur. Et nous, nous aimons les gens. On ne peut pas dire que la génération dans laquelle nous vivons, les choix du monde, soient des choix toujours en adéquation avec Dieu ou avec la morale et tout ce que vous pouvez penser. Souvent, non, c'est l'égoïsme, c'est celui qui se fera le plus d'argent. On est dans une société manipulée aussi par le profit, par plein de choses qui finalement ne sont pas en rapport avec ce que Dieu veut. Mais Dieu nous aime. Et Dieu vous aime. Et quand on vient au Seigneur, on ne va plus selon le train de ce monde. À un moment donné, Paul parle du train de ce monde. On ne va plus sur le quai du train qui va dans le monde. On prend un autre quai et on va à contre-courant. Et vous savez, ce qui est formidable, on va à contre-courant, c'est la meilleure façon de rencontrer les gens. Vous avez remarqué que dans une foule, quand vous suivez une foule, qu'est-ce que vous faites? Vous ne voyez jamais les gens face à face. Souvent, vous ne les rencontrez pas. Mais faites l'inverse. Si un jour, vous voyez dans un trottoir une foule de gens, commencez à aller à contre-courant. Vous allez voir les gens vous regarder. Vous risquez de faire des rencontres. Parfois, vous risquez aussi de prendre quelques coups. Nous sommes à contre-courant. Et pourtant, nous aimons les gens. Pourtant, nous ne sommes ni... les gens, au départ, mes parents, quand ils m'ont vu se convertir, ils ont dit, oh, ils ont eu peur. Ils ont dit, qu'est-ce qui va devenir? Puis au fur et à mesure, ils m'ont vu plus joyeux, épanoui, ils m'ont pas vu triste. Et là, ils se sont dit, ouais, mais quand même, on a beau dire ce qu'on veut, on n'est peut-être pas d'accord avec lui, mais il n'est pas devenu tordu, il n'est pas devenu, c'est pas un intégriste, etc. Il se passe quelque chose dans sa vie. Alléluia. Et c'est ce qui arrive quand on rencontre Jésus. Et mes amis, c'est ceux qui ont accepté tout le message qui se sont fait baptiser. Regardez-moi bien. Ils ont été touchés. Ça, c'est la première chose. Les sensations à l'intérieur, on vit quelque chose, sont repentis. Ils ont accepté le baptême, ils ont recherché le baptême du Saint-Esprit et ils ont accepté aussi la sanctification. Et lorsqu'on veut avoir des disciples, mes amis, il ne faut pas juste prendre un ou deux points. C'est tous les points qu'il faut prêcher. Et c'est peut-être pour ça qu'on a parfois plus d'adeptes et un petit peu moins de disciples. Amen. La deuxième chose qu'on voit, une église en bonne santé, c'est qu'il persévère dans plusieurs choses. Ah, persévérer. Vous savez, au début, quand on se convertit, ce qui est extraordinaire, c'est comme dans le mariage, c'est comme dans un nouveau travail, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? C'est comme la nouvelle voiture, c'est comme tout ce qu'on a de nouveau. Moi, ce qui est extraordinaire, c'est quand on a quelque chose de nouveau, on est tous pareils. Hein. On reçoit un nouveau téléphone portable, on passe 2-3 soirées à essayer de voir tout ce qu'il est capable de faire. On est là, bon, au bout d'un moment, ça lasse. Et mes amis, ils ont été plus loin que simplement leur cœur touché. Il nous est dit qu'ils persévéraient. Je crois qu'extraordinaire, c'est quand on se convertit au Seigneur, on a un tel élan au départ qu'on peut presque se laisser porter par l'élan du départ, vous avez remarqué? Mais à un moment donné, le Seigneur dit, maintenant que tu grandis un peu, papa, il va te lâcher un peu la main, enfin, il va arrêter de te porter sur les épaules, il va commencer à fortifier tes muscles. Tu vas vers que naturellement, tu vas commencer à te tenir debout tout seul. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qu'on dit à tous les enfants quand ils naissent? À un moment donné, quand ils naissent, après quelques mois, pardon, qu'est-ce qu'on leur dit? Marche. Vous imaginez qu'un enfant, tout, il se fait porter tout le temps, poussette, sur les épaules. Et un jour, il est là, et les parents sont juste contents de dire, marche tout seul. Et puis plus ça va, plus ils s'écartent. Plus la distance est longue, plus ils sont obligés de se débrouiller. Mes amis, Dieu veut nous voir persévérer. Quand vous allez vous marier, je vous souhaite à tous ceux qui ne le sont pas encore, à ceux qui le sont déjà, peut-être qu'ils me comprendront. Quand on tombe, on a le coup de foudre, c'est formidable d'avoir le coup de foudre. Peut-être on l'a tout de suite ou on l'a après, mais qu'importe. On tombe amoureux, on est là, ah, Pamela, t'es la plus belle. Ken, mon Ken à moi. Il peut y avoir beaucoup de sentiments, le cœur qui s'enflamme. Mais au bout d'un moment, mes amis, j'aimerais vous dire, je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais c'est juste que... Ben, ça c'est pas tout à fait pareil avec le temps. Et pourtant, l'amour est là, je peux vous assurer. L'amour est là. Et après, on apprend à persévérer. On apprend à entretenir. On apprend à faire des petits gestes. On apprend à aller au restaurant. Alors qu'au début, quand on est fiancé, si on s'écoutait, on serait tous les jours au restaurant. Qui c'est qui a déjà été fiancé et il a perdu beaucoup d'argent dans le temps de ses fiançailles? Moi, je crois que c'est là où j'étais peut-être le moins riche. N'est-ce pas, Jo? C'est pas vrai? Ah là là! Et après, on se dit, on laisse tomber, on est là, ouais, chérie, c'est normal que tu me fasses à manger, etc. Et puis, au bout d'un moment, on se laisse aller. Vous n'avez pas remarqué? Le mari n'invite plus la tendre au restaurant. Et puis, l'épouse peut arriver aussi que le soir, elle arrive, elle est déjà avec un jogging, vous savez, jogging, pas d'éléphant. Elle a déjà mis les bigoudis pour le lendemain. Elle dit, salut chérie, comment tu vas? Et là, elle dit, mais tu m'aimes, tu es mon mari. Et on se dit qu'à un moment, non, il faut que je fasse un petit effort. Parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'on a eu la journée de travail dans les pattes, parce qu'on a dû sourire à plein de gens, parce qu'on est à l'accueil de notre entreprise, et tout le monde, bonjour, ici un tel, soyez bienvenus. Quand on rentre à la maison, on a envie de faire la tête, parce qu'on a souri toute la journée. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Ben, si on ne persévère pas, le couple, la relation, risque de se détériorer. On est d'accord avec ça? Et là, j'aimerais vous dire que dans notre relation avec Dieu, il y a des moments où si on ne fait pas attention, notre relation avec Dieu va se détériorer. Et pourtant, quand on s'arrête, on dit, mais pourtant, je t'aime, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. Et Dieu dit à un moment donné à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Alors, paie mes brebis. Fais ce que je te dis. Pas simplement, tu m'aimes. Et quand Pierre va faire ça, ça va lui coûter quelque chose. Ça va lui coûter quelque chose. Mes amis, persévérer ici dans le mot grec, c'est adhérer à quelque chose, être fermement attentif, prendre un soin ininterrompu à une chose. Ce n'est pas juste il persévérer, c'est quelque chose de puissant dans ce terme grec. Et quand je suis pasteur, souvent on est là, on a le mauvais rôle parce qu'on va voir les chrétiens qui ont un peu laissé tomber, qui ont un peu baissé les bras. On essaie de les encourager à persévérer et parfois en disant « Oh ouais, vous allez aux réunions, pourquoi faire, prier, pourquoi faire ?» Mais tout ce qu'on sait, c'est que si on ne fait pas attention, petit à petit, ces personnes-là commencent à décrocher. Vous savez ce qui se passe? Ils commencent à persévérer dans autre chose que dans l'Évangile. J'ai toujours vu que le cœur de l'homme n'aime pas le vide. Quand je vois quelqu'un se détacher du Seigneur et que je lui dis « Mais accroche-toi parce qu'on est tous pareils. » J'ai eu des moments aussi, moi, où j'ai décroché. Mais il a fallu que je me reprenne. Vous savez pourquoi? On les voit commencer à faire un tas d'autres choses que l'Évangile. On les voit retourner à la salle de sport et passer 2-3 heures chaque jour à soulever des kilos. Après, qu'est-ce que tu fais? Ben, je sors mon vélo, j'ai acheté un nouveau vélo à 4000 euros. Je sors tous les soirs et le week-end. Écoute, je n'ai pas le temps d'aller à l'église parce que c'est ma balade de la semaine. Ils font un tas d'autres choses. D'autres, ils achètent une maison et ils font des travaux tout le temps. Et vous savez ce qui arrive? Au bout de 5-6 ans, ils ont perdu pas mal de choses. Ils sont tristes, leur couple va mal, leur vie va mal. Jusqu'à ce qu'un jour, et heureusement, ils se disent « Mais j'ai perdu le contact avec Dieu. » Amen. Parce qu'on peut avoir une maison, avoir un vélo, on peut avoir tout ça, tout en ayant une bonne relation avec Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. On aurait pu être au foot cet après-midi, mais franchement, moi, je n'ai pas à choisir entre le football et puis être dans la présence de Dieu. C'est ici, mon éternité. Je sais que ce que je suis en train de vivre ici, ça se restera dans l'éternité. Et j'aime bien le football parce que quand c'est le soir et que j'ai rien à faire, je ne me dérange pas de regarder un match. Hein. Alors ne me regardez pas en disant il n'aime pas le foot. Hein. Je ne suis pas un fan non plus, mais voilà. Mais il y a des choix dans la vie à faire. Amen. Des choix. Il persévérait. Mes amis, dans 4 choses. Premièrement, dans l'enseignement. Pourquoi le mot enseignement est en premier? Parce que ce que je crois, ce qu'on a besoin d'ouvrir tous les jours, c'est sa Bible. Qui ouvre sa Bible tous les jours? Allez, tout le monde lève pas la main. Mais j'aimerais vous dire que c'est une des choses les plus importantes. En premier, ouvre ta Bible. Persévère dans l'enseignement. Vous savez qu'à l'époque d'où ça a été écrit, où on est en train de faire des critiques, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Et je comprends pourquoi il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et aujourd'hui, avec cette Bible entre les mains, vous avez le condensé, vous avez tout l'enseignement des apôtres qui est là, entre vos mains. Et aujourd'hui, vous pouvez mettre ça sur votre téléphone portable, c'est gratuit. Au 15e siècle, 16e siècle, 14e siècle, il n'y avait pas de Bible. C'est avec la première Bible Gutenberg. Et Gutenberg, quand il a commencé à sortir ses Bibles, c'était fait pour les gens les plus riches. Il y a seulement quelques siècles en arrière, ça ne fait pas si longtemps que ça, qu'on peut s'acheter une Bible d'une manière sans se ruiner. Mais à l'époque, personne n'avait accès à la Bible. Aujourd'hui, on a accès à la Bible. Quand on veut, on distribue même des Bibles gratuites. Mais vous avez remarqué que ça ne suffit pas d'avoir une Bible gratuite, il faut pouvoir l'utiliser. L'enseignement, pourquoi? Parce qu'on doit tout enseigner. Parce que je ne crois pas que les apôtres enseignaient simplement des choses qui allaient dans le sens du... Comme on dit, on ne caressait pas seulement dans le sens du poil. Paul, quand il parle à Timothée, il dit aussi « reprends, censure, corrige ». Mais il dit aussi « exhorte, amen, encourage ». Et ce que j'aime, moi, dans l'Évangile, c'est un ensemble. Il y a des moments pour encourager, des moments pour exhorter, des moments pour consoler, puis il y a des moments aussi pour reprendre, pour corriger, pour dire ce que tu fais là n'est pas bien, ce n'est pas correct ce que tu fais. Oh Seigneur, merci. Et vous avez remarqué que toutes les fois où on a été enseigné et repris par Dieu, ça a toujours été bon, ça a toujours été salutaire. Donc l'enseignement en premier. Deuxièmement, la communion fraternelle. Ah. Vous voyez, c'est quoi une église en bonne santé? C'est une église où les gens se voient, où j'aime
te retrouver. Où j'aime te retrouver. Les gens, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mes amis, quel privilège nous avons de pouvoir nous retrouver. Je ne sais même pas si un instant, si l'Église n'existait pas, dans quel état spirituel nous serions. Vous savez que même en voyant les frères, juste en voyant quelqu'un, on peut reprendre courage. Vous savez que des fois, je suis arrivé dans l'Église, abattu, je n'ai rien dit à personne, je me suis juste assis. Et puis, il y a quelqu'un qui a élevé sa voix, qui a amené une prière. Il y a quelqu'un qui est venu me dire un mot. J'ai juste été là. Et juste d'avoir vu les visages de quelques frères et sœurs, j'ai simplement repris courage. La communion fraternelle, ce n'est rien d'autre que passer du temps ensemble. Si on est tout le temps en train de courir à droite à gauche, qu'on ne prend pas le temps d'être ensemble, on aura du mal dans son... Comment on va exercer les dons spirituels? Comment donner une parole de connaissance? Comment donner une parole d'encouragement? Mes amis, est-ce qu'il faut attendre qu'on nous tende un micro, qu'il y ait un don spirituel pour en donner? Ben, on peut le faire quand on est en train de parler ensemble. Amen. Combien j'aime ces moments, même cet après-midi d'être avec vous. La communion fraternelle. Dans certains pays, ils ne peuvent pas se réunir. Et nous, on peut se réunir. Et certaines personnes se privent de ce privilège énorme. Troisième chose, la fraction du pain. On a besoin, lorsque l'Église se rassemble, que si c'est votre Église ici, ou si vous avez déjà une Église, vous êtes venu nous rendre visite cet après-midi, parce qu'Oasis fait des réunions l'après-midi aussi pour qu'il y ait d'autres chrétiens qui viennent se faire du bien. Vous avez besoin de prendre le pain et le vin. C'est vrai que ce sont aussi rien de magique dans le pain et le vin. Ça ne se transforme pas. Mais combien c'est fort quand je prends le pain et le vin, j'annonce la mort, la résurrection et le retour de Jésus. Et que nous devons persévérer dans ces choses. Amen. Nous devons prendre ensemble. Moi, je me rappelle quand j'étais catholique, j'avais un truc que je n'ai jamais accepté. Vous savez quoi? C'est que je n'avais jamais le droit au vin. D'abord, il y a un truc qui me gênait, c'est que le curé sortait d'une espèce d'hostie qui était plus gros que les miens. Nous, on avait droit à des petites hosties. Lui, il sortait une espèce de grosse galette comme ça. Vous avez jamais... vous n'êtes pas catholique, alors j'explique pour ceux qui ne sont pas catholiques. Moi, j'étais catholique, je voyais le curé ouvrir un gros morceau de pain, enfin, une grosse galette. Il prenait pour lui et il rangeait tout et nous, on n'avait pas le droit à celui-là déjà. Bon, ok, ça marche. Et après, il nous donnait des hosties. Mais il y a un truc qui m'a marqué, alors que je n'étais pas chrétien évangélique. Je voyais sortir une coupe, vous savez, c'était une sorte de petite armoire avec une coupe. Il prenait une coupe, il disait, voici, ceci est le vin, versé pour vous. Il faisait, gloup, il nettoyait, il rangeait, et nous, il ne donnait que l'hostie. Moi, à l'époque, j'ai dit, mais c'est pas normal que moi, je n'ai pas le droit. Alors que je ne saisissais pas toute la portée, ça. Aujourd'hui, on a la possibilité de prendre la communion ensemble, le pain et le vin. Amen. Dernière chose concernant les piliers de la vie chrétienne, les prières. Ah, les prières. Qui a déjà fait cette expérience-là que quand on s'arrête de prier, plus moins on prie, moins on a envie de prier. Déjà, vous avez remarqué ça? Puis c'est comme le vélo. Et à un moment, on s'en remet, puis plus on prie, plus on a envie de prier. Et la vie par chrétienne est parfois où il faut se ressaisir. On a besoin de prier. Il y a un truc que je fais maintenant, je vous avais dit ça avant, je fais quelque chose, tous les matins, quand je me lève, la première chose que je fais, je me mets assis sur mon lit, je prie. Je ne fais rien d'autre quand je me lève. Je pars pas boire mon café, je me mets sur mon lit. Pourquoi j'ai décidé que la première personne avec qui je vais parler, la première chose que je vais dire à Dieu, et tout ce que j'ai eu dans la nuit, des fois, ça vous arrive d'avoir des cauchemars aussi à vous, des fois, des trucs un peu bizarres. Première personne avec qui je parle, puis des fois, dans la matinée, vous vous réveillez parce que vous pensez à un truc qui vous inquiète. Première chose qu'il faut faire, je m'assois et je prie Dieu. Je ne dis pas que je prie 3 heures, mais je prie ce que Dieu met sur mon cœur. La prière. Les prières. Ce que j'aime bien, c'est au pluriel. Les prières. Il y a toutes sortes de prières, toutes sortes de supplications, dit Paul. Nous avons besoin de persévérer dans la prière. Non seulement quand nous sommes le jeudi ensemble, et c'est pour ça que je vous invite à venir. Écoutez-moi bien, vous le savez, vous qui êtes d'Oasis, on ne fait pas des réunions le jeudi juste pour faire. C'est pour vous. C'est pour être ensemble. Et vous avez besoin de prier chez vous. Et qu'est-ce que c'est prier? Ce n'est pas simplement répéter. C'est avoir un contact avec Dieu, une communion avec Dieu. Amen. Persévérez dans la prière, mes amis. Quelqu'un me dira, j'aime pas prier. Persévère. Je ne suis pas persévère. J'aime pas trop lire la Bible. Persévère. J'aime pas trop être avec les gens parce que j'aime bien être tout seul dans mon coin. Persévère dans la communion fraternelle. Vous savez, persévère. Et j'aimerais vous dire que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile. Moi, il y a des moments dans la vie chrétienne, je ne sais pas si vous l'avez connu, c'est facile. C'est comme si on est porté, vous voyez, quelque chose qui vous pousse. Ah, vous avez envie d'aller à l'église. Puis il y a des moments, on ne sait pas pourquoi, on est tout découragé, on est fatigué, on n'a plus envie d'y aller, on n'est pas... Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu va nous dire ? Persévère. Amen. Quelles sont les attitudes que ces gens avaient ? Ça va, vous suivez encore ? Quelles sont les attitudes que ces gens avaient ? Ces gens avaient d'abord la crainte respectueuse. Qu'est-ce que c'est que la crainte respectueuse ? C'est quelque chose, je ne sais pas comment l'expliquer, comment le définir, c'est quelque chose qui doit nous animer. Vous savez, la crainte, quand nous sommes dans la présence de Dieu, de laisser passer à côté les paroles, de faire n'importe quoi, ça peut être la crainte, vous savez, de négliger, mais aussi la crainte, c'est « Seigneur, je sais que tu es dans ce lieu-là, tout peut se passer ». La crainte aussi de parler légèrement. Qui n'a jamais fait cette expérience parfois de rentrer d'une conversation et te dire, même si je suis chrétien, même si je suis pasteur, quand même, ce que j'ai dit là, ce dont j'ai parlé là, ça ne m'a pas édifié. N'est-ce pas ? J'ai parlé avec légèreté et pas avec crainte. Vous savez, quand vous avez la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Combien de gens, des fois, vont dans les églises, n'ont pas crainte de parler du pasteur, n'ont pas crainte seulement, ou pas seulement du pasteur, de la voisine, et même de Dieu, de la Bible. Moi, je veux avoir cette crainte-là, respectueuse. Pas la crainte qui a peur du jugement, la crainte d'un fils envers son papa. Amen. Et quand il y a cette crainte-là, il y a beaucoup de miracles, il y a des prodiges. Vous avez remarqué qu'à un moment donné, je dis ça parce que il y a Ananias et Saphira, vous savez, vous connaissez cette histoire de Actes chapitre 5, quand à un moment donné, ils ont volé de l'argent, l'argent qui appartenait à Dieu, ils n'ont pas eu la crainte de Dieu. Et ils sont morts dans l'église, aux yeux et aux vues de tout le monde. Ça devait être chaud ce jour-là. Hein? La Bible dit que la crainte de Dieu s'était emparée de chacun. Alors, me direz-vous, pasteur, nous, on prêche que la liberté, la joie, Dieu est bon, on saute, on chante. Et moi, le premier, hein, vous avez vu la guitare, je me lâche, j'aime ces chants. Mais attention, je peux aussi avoir la crainte de Dieu tout en chantant la liberté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? De dire, Seigneur, on a conscience que tu es ici. Vous savez, il y a des gens qui critiquent le fait qu'on chante de la bonne musique, etc. Et ils pensent qu'en changeant de musique, ça va changer d'atmosphère. Mes amis, non. Non, c'est parce que vous allez faire un orgue avec un vieux chant du XVIIe siècle que Dieu va être plus près de vous. Mais quand nous chantons et que nous sautons, faisons-le pour Dieu. Faisons-le avec une sainte respect que Dieu est dans ce lieu. Vous savez, quand quelqu'un saute et danse en ayant conscience que Dieu est dans la salle et qu'à côté de lui sont ses frères et sœurs, je vous assure, il va chanter, il va sauter, mais il ne fera pas n'importe quoi. Cette même personne sera capable de se mettre à genoux et de trembler devant Dieu parce qu'il a conscience que ce qu'il fait, il le fait pour son papa. Alléluia. Ils avaient aussi quelque chose d'incroyable, c'est qu'ils étaient tous en commun, tous ensemble, pardon, et ils avaient tout mis en commun. Ah! Je n'ai pas vu dans les textes là quelqu'un qui leur a dit « il faut vendre vos maisons, il faut faire, il faudrait, on va vous ponctionner ». Quelqu'un m'a dit dans une église dernièrement, il m'a expliqué que quand il va dans une église, c'était hier avec Abednego, il a vu des personnes qui sont arrivées à Montfermeil parce qu'ils en avaient assez de se faire racketter. Je ne dirais pas le nom de l'église. Mes amis, donner son argent à Dieu, ce n'est pas se faire racketter. Ici, il n'y a pas de racket. Il y a simplement ce que parfois les gens du monde font. Il y a des besoins dans l'église. J'ai des maisons. Pourquoi il y a le mot pluriel ? Parce qu'ils ne vendaient pas leur maison en se retrouvant à la rue. Ils avaient des biens, ils avaient des maisons, et ils pouvaient en vendre. Est-ce que vous me suivez ? Et il y a un autre truc que vous devez savoir, parce que la Bible est équilibrée. Ils le vendaient et donnaient en fonction des besoins. Ils ne donnaient pas l'argent comme ça, en fermant les yeux. C'est en fonction des besoins de chacun. Et j'ai dit, lui, il a besoin, moi j'ai des maisons, j'ai de l'argent, je peux partager. Amen. Et ils le faisaient comment ? Dans la joie. Personne ne les contraignait, les apôtres n'ont pas prêché ça, Jésus n'a pas enseigné. Non, il a dit, je vous encourage à semer beaucoup. Je vous encourage à... Et c'est une histoire d'abord de cœur. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à vivre comme les premiers chrétiens ? Est-ce que nous sommes prêts nous-mêmes à nous laisser interpeller par le Seigneur ? L'attitude aussi, mes amis, c'était au temple et à la maison. Au temple, c'était le public. Ah ! Combien certains sont bons quand ils sont en public ? Un jour, vous avez déjà vu cette petite image humoristique, je l'ai dans mon bureau, où on voit le chrétien qui rentre chez lui, il ferme sa porte, et sa femme lui dit à son mari, « Chérie, tu peux arrêter de sourire, on est à la maison. » Combien de gens, quand ils sont au temple, ils sont super. Mais là, on voit qu'ils étaient au temple et dans les maisons les mêmes. Ils montaient avec zèle. Ils étaient assidus au temple. À cause de l'origine juive, vous savez, parce que le temple n'était pas encore détruit. On sait très bien après que ça ne servait plus rien d'aller au temple. Mais eux, ils étaient de là, ils étaient de leur communauté. Mais aussi, il nous est dit que dans les maisons, ils prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur. Ils prenaient la Sainte Cène ensemble. Il y avait quelque chose de particulier. Il y avait une attitude, un zèle, une joie, une simplicité, une atmosphère aussi de louange. La Bible dit qu'ils louaient Dieu. Ça veut dire que si je viens chez toi, je suis le bienvenu. Alors, je m'adresse à celles qui sont là, parce que les pauvres, elles le disent. Mais si je viens chez toi, je suis le bienvenu. C'est pas Emmanuela. Et si je viens chez Emmanuela, on va manger ensemble, on va se réjouir, et la simplicité de cœur. C'est-à-dire que tout ce qui est compliqué, tout ce qui est tordu, on va le laisser de côté. On va se réjouir ensemble. Et puis, s'il faut, on sort une guitare, on loue le Seigneur ensemble, parce qu'on se dit, ben, on n'attend pas non plus qu'il y ait tout le groupe le dimanche matin pour louer Dieu. On peut louer Dieu à la maison. Amen. On peut louer Dieu sans trompette. Est-ce que vous le faites des fois, ça? Amen. Et louer Dieu dans les maisons, et trouver grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, j'aimerais m'arrêter juste avant de terminer sur la joie qui était leur caractéristique. J'aimerais bien, je prie, que nous, ici à Oasis, que vous, dans votre Église, vous puissiez retrouver la joie, la simplicité. C'est vrai que des fois, moi, je suis le pasteur, je dis, tiens, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Des fois, je peux même mettre la pression, je sais comment mettre la pression. Mais on voit ici qu'il n'y a pas de pression, on voit que des gens, ils ont envie de le faire, ils ont envie d'être ensemble, ils ont envie de travailler, ils ont envie de louer, ils ont envie de servir. Vous avez vu ça? Et ce côté-là, je pense qu'une église en bonne santé, c'est une église où on se sent bien. On passe des bons moments ensemble. Tout à l'heure, on va voir, vous savez, notre moment d'agape fraternelle. Moi, j'ai préparé. J'ai même tellement préparé ce matin, j'ai pensé à tout ce que je devais faire. J'ai été invité ce matin dans un culte. J'ai oublié d'aller me rendre à l'église. Vous rendez compte? À cause d'Oasis. J'étais invité ce matin dans une église à Paris. À 10h30, j'avais préparé mon poulet, tout ça. J'ai complètement oublié. Bon, le pasteur, il est sympa. On s'est appelé. Il m'a dit, non, mais c'est pas de souci, Bertrand. Du coup, tu me dois un autre moment, tu reviendras. J'ai complètement oublié. On a besoin des moments aussi comme ça où on est ensemble. Amen. Mais on voit une joie, une simplicité. Et vous savez, ici, le mot joie, c'est un mot très fort en grec. Parce qu'il y a plusieurs mots pour définir le mot joie. Ce n'est pas un simple mot, le mot joie. Ici, il est que 4 fois dans le Nouveau Testament. Ici, le mot joie, il signifie exactement exultation, joie extrême, allégresse, au fait. Le peuple était oint de l'huile de joie. Regardez-moi bien, quand il dit qu'ils prenaient leur nourriture avec joie, c'était pas « ouais, ça va, c'est bon, ouais, ah, je suis joyeux ». C'était exultation, exaltation, c'est le mot « allégresse ». Et regardez-moi bien, combien dans les églises parfois, c'est pas vrai, dans les églises, les chrétiens veulent réveil, veulent du ça, mais ils ont perdu juste la joie d'être ensemble, l'allégresse de partager, la simplicité. Amen. Moi, je voudrais qu'on ait ça entre nous. Et vous savez, si on est ça, les gens vont nous regarder, vont nous dire qu'ils sont vraiment différents, ces gens-là, ils sont à contre-courant. On va louer Dieu ensemble. Les gens vont être interpellés. Et je vous assure, ici, il y a un truc qui est fait, et je termine, c'est moi ma conclusion. Il ne nous est pas parlé d'évangélisation. Il ne nous est pas parlé de campagne. Et pourtant, j'aime les campagnes, la campagne d'évangélisation. J'aime évangéliser. Je peux vous dire même, on pourrait faire plein de choses dans l'évangélisation. Mais ici, il ne nous est pas parlé de ça. Il nous dit simplement parce qu'ils étaient. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Si vous êtes au temple comme à la maison, quelqu'un de simple dans le mot, dans la simplicité de cœur, joyeux, respectueux, amoureux, zélé, aimant les autres, aimant passer du temps à louer Dieu, si vous persévérez dans la prière, dans la communion fraternelle, si vous persévérez dans ces choses, si vous êtes simplement un chrétien authentique et profond, vous risquez une chose, c'est que le Seigneur va se servir de vous, de votre témoignage pour amener des gens dans l'Église. Amen. Et vous savez, l'évangélisation du dimanche, c'est la somme de tout ce que vous êtes dans la semaine. On dit souvent, la louange du dimanche, c'est la somme de tout ce que vous louez dans la semaine. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous savez, plus vous allez lire la Bible, écoutez-moi, c'est mon dernier mot, plus vous allez lire la Bible, plus lorsqu'on va prêcher, ça va rappeler des choses dans votre cœur, ça va vous ouvrir l'esprit. Plus vous allez dire, waouh, du coup, ah ouais, il dit ça, mais j'ai entendu ça cette semaine. Waouh, mais en plus, j'ai lu ça hier. Vous avez vu, vous n'avez jamais fait ça ? Parce que vous allez entretenir une vie spirituelle normale et le dimanche, ce sera l'apothéose. Et quand je vois, comment on a chanté tout à l'heure, ça ne se voit pas, mais moi, la guitare, j'étais bien. Moi, je ne m'arrêterai pas. Hein. Presque, je ne sais pas si je prêcherai presque. Hein. Presque hein. C'est tellement, c'est formidable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut prier ensemble, les biens ?